Vous êtes avec SBS French.
C'est la chronique économie de la semaine avec Nicolas Perpich. Salut Nicolas.
Salut Marianne.
On va commencer par parler automobile puisque les ventes des voitures électriques sont à des niveaux jamais vus.
Oui, tout à fait, tout à fait. Pour le mois de juin, on est arrivé à des niveaux, comme tu dis, jamais vus. Mais bon, en même temps, les voitures électriques font juste 10% du marché en tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y en a de plus en plus. Et des variétés, par exemple, l'année prochaine, il y aura 70 nouveaux modèles de voitures électriques sur le marché australien. Donc vraiment, ça explose là. Et pour les consommateurs, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'avec plus de compétition, bien sûr, il y a des prix de plus en plus abordables, en particulier les voitures électriques chinoises. Il y en a qu'on peut acheter pour 30-35 000 $. Ça commence à devenir vraiment abordable. Et si on regarde, c'est toujours Tesla qui vend le plus de voitures électriques en Australie, à peu près 4 590 en juin. Mais quand on ajoute les voitures hybrides, et ben là, BYD, la compagnie chinoise, vend bien plus que Tesla. Donc, il y a vraiment un changement qui se passe là. Et donc, en juin, en tout, il y a eu plus de 13 000 voitures électriques vendues en Australie, ce qui est à peu près 10% du marché. Ça grandit rapidement, mais une des choses qui fait hésiter les gens ici en Australie plus que dans des pays plus petits géographiquement, c'est les distances. Et ça, c'était le problème dès le début, qu'on a des énormes distances ici en Australie. Alors, les gens se demandent, est-ce que je vais pouvoir conduire 300, 400, 500, 600 kilomètres ou faire un grand voyage dans le Outback, par exemple. Et ça s'appelle « range anxiety ». C'est un peu ce qui crée un blocage et on a besoin vraiment de plus de stations de chargement autour de l'Australie pour que les gens sont moins inquiets. Mais ce qui devrait aussi aider le marché, c'est que le gouvernement a introduit aussi ce qui s'appelle des « vehicle emission standards ». Ça veut dire qu'il y a des limites de pollution ou d'émissions de gaz à effet de serre que chaque compagnie de voitures a le droit de produire ou de vendre en Australie. Donc ça va les encourager à vendre de plus en plus de voitures électriques. Donc ça va aussi ajouter à ce changement. Mais il faut vraiment ce qu'on appelle un National Charging Strategy, une stratégie autour du pays. Il y a certains pays qui font des choses différentes, mais il faut qu'il y ait des assurances pour les gens qui peuvent partir sans crainte en long voyage à travers l'Australie.
Et vous parliez des distances pour laquelle, avec la stratégie, on pourrait avoir une solution. Il y a aussi le fait qu'en Australie, il y a beaucoup de parcs nationaux et de chemins qui ne sont accessibles qu'en 4x4. C'est un pays très basé sur l'extérieur, sur le camping. Et c'est peut-être pour ça que les véhicules électriques ont mis longtemps avant d'être acceptés dans ce pays et qu'ils ne correspondent qu'à 10% des ventes aujourd'hui.
Oui, non, c'est tout à fait ça. Puis en plus, voiture, il y a pas tellement de voitures électriques 4x4. Il y en a quelques-unes qui sont all-wheel drive, mais pour des vrais 4x4, c'est plus compliqué parce que ça va utiliser bien plus d'énergie. Donc ça va consommer beaucoup plus de la batterie. Donc ça devient compliqué si vraiment on veut faire du 4x4 avec une voiture électrique. Il y en a, mais ils sont très chers. Il y en a des hybrides, quelques-unes, mais ça devient un peu plus
bien
compliqué.
Sûr.
Et l'Australie, c'est vraiment un pays de 4x4 et de utes.
Encore, alors, oui.
Oui. Ouais.
On va passer à notre deuxième thème, Nicolas. C'est une bonne nouvelle pour de nombreux Australiens dont vous allez nous parler. Des milliers d'Australiens pourraient bientôt récupérer plus de 60 millions de dollars en frais bancaires. Expliquez-nous.
Oui, voilà. Donc ça, c'est des frais bancaires excessifs pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et donc ils ne devraient pas payer des frais de haut niveau. Et ce qui s'est passé, c'était que le Australian Securities and Investment Commission a enquêté à ce sujet et a dit aux banques, ça va pas, vous êtes en train de faire payer beaucoup trop d'argent pour les frais à des gens avec des salaires bas, à des gens sur avec des paiements de Centrelink comme Jobseeker ou la pension ou les paiements pour disabilité. Et ils ont dit qu'ils ont fait une revue de 21 banques et ils ont trouvé qu'il y a 800 000 clients qui ont payé trop et qui devraient donc récupérer cet argent. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est comme un cadeau. C'est pas vraiment un cadeau, c'est leur argent. Mais ça va devenir tout d'un coup maintenant, on espère. Par exemple, il y a une femme qui habite à Broome, en Australie-Occidentale, et récemment, elle a récupéré 10 ans de frais de la Commonwealth Bank. Et elle, c'est quelqu'un qui a un salaire assez bas où elle reçoit une pension de disabilité. Donc, c'est pas des frais qu'elle aurait dû payer. Mais c'est pas la première fois non plus, parce que la première enquête par ASIC a révélé que les banques Commonwealth Bank, Westpac, Bendigo Bank et ANZ ont fait la même chose avec des clients aborigènes, 150 000 personnes qui ont eux aussi auraient dû payer des frais les minimums de frais et qu'ils avaient payé le maximum de frais. Et là, c'était à cette occasion, il y a eu une question de 33 millions de dollars. Ça ne devrait pas se passer. Et bon, heureusement quand même, il y a l'agence comme l'Australian Securities and Investment Commission qui enquête à ce sujet et qui fait payer les banques, repayer cet argent aux gens qui le méritent, à qui on n'aurait jamais dû prendre cet argent dès le début.
Oui, voilà, c'est pas tant une bonne nouvelle plus qu'un juste rendu en fait.
Tout à fait, c'est un juste rendu.
Merci beaucoup Nicolas Perpich.
Merci Marianne.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.